Les Années-Lumière, édition du 26 juillet 2009. Contre le réchauffement, un bouclier qui fournirait à notre planète de l'ombre et de la fraîcheur. Science-fiction? Non. Un exemple de géo-ingénierie. Bonjour, ici Sophie-André Blondin. Je suis en compagnie de toute l'équipe pour vous présenter cette édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Cette émission, elle va commencer dans la grippe H1N1. Nous ne sommes pas tous égaux devant cette maladie. Pourquoi les populations autochtones sont-elles plus vulnérables et comment agir pour réduire cet écart de vulnérabilité? Puis Gaëlle-Lucia Berdou, c'est vous qui nous proposerez quelques idées géo-ingénieuses.
Des technologies pour freiner le réchauffement de l'atmosphère, des idées surprenantes et loin de faire l'unanimité.
Au courrier des années-lumière, une question sur le scorbut chez les Inuits. Et pour terminer la première heure en rappel, la chronique d'Hervé Fischer sur l'avenir des grandes bibliothèques à l'ère du numérique. Deuxième heure, on la commence avec notre série « Les stars des étoiles », comme c'est notre habitude depuis le début de l'été. Quel grand astronome allez-vous nous présenter, Hugues de Roussin?
Bien, il s'agit de Nicolas Copernic. Il a changé notre conception de l'univers, mais aussi notre manière de penser. Avec lui, la Terre n'est plus le centre de l'univers. Il a lancé la révolution copernicienne.
Ensuite, en rappel, un reportage sur les femmes en sciences, quelques initiatives pour les attirer vers les mathématiques, le génie et la physique, des domaines qui souffrent d'un déficit féminin. Et puis, pour conclure l'émission, vous recevrez l'auteur de la semaine, Gaëlle-Lucia Berdou.
Un passionné des oiseaux et de leur comportement, Jean Léveillé signe « Les oiseaux explorateurs » aux éditions de l'Homme.
Pour commencer, les dernières nouvelles sur le front de la grippe H1N1. Lors de la publication des dernières données par l'Agence de santé publique du Canada, jeudi, 50 personnes étaient décédées de la grippe H1N1 au Canada. Plus de 10 156 cas du virus pandémique ont été confirmés en laboratoire, dont 1 115 cas de H1N1 ont nécessité des hospitalisations. La semaine dernière, on avait noté une augmentation de 21% du nombre d'hospitalisations causées par le virus. Il n'est donc pas exclu que la virulence de cette grippe évolue. Comme ce fut le cas auparavant, au Danemark, au Japon et à Hong Kong, le Canada a aussi enregistré un cas de résistance au Tamiflu mercredi. Il s'agit d'un Québécois de 60 ans qui prenait le médicament antiviral en dose réduite à titre préventif. Mais là où la grippe H1N1 fait des ravages proportionnellement plus graves, c'est chez les populations autochtones. Début juillet, un rapport publié dans la revue The Lancet suggérait que les quelques 400 millions d'aborigènes dans le monde, dont environ 1 200 000 se trouvent ici au Canada, courent plus de risques de contracter la grippe H1N1. Une inquiétude qui avait déjà été soulevée par l'Organisation mondiale de la santé, c'était au début juin, déjà on soulignait le nombre disproportionné de cas sévères de grippe H1N1 dans les communautés autochtones du Canada. Réunie cette semaine pour élire son nouveau chef, l'Assemblée des Premières Nations a réitéré donc son inquiétude que les populations autochtones sont plus souvent et plus durement affectées par le virus. Et les chiffres donnent du souffle à ces inquiétudes. Par exemple, si les Premières Nations constituent 10% de la population du Manitoba et du nord de l'Ontario, le tiers des cas de grippe H1N1 se trouve dans ces communautés. Le taux d'infection national est de 24 personnes sur 100 000 au Canada, mais il atteint 1070 sur 100 000 au Nunavut. L'âge médian des cas identifiés est aussi plus jeune là-bas. Il oscille autour de 18 ans dans la population canadienne, mais il n'est que de 9 ans au Nunavut. La pédiatre Anna Banerjee de l'hôpital St. Michael's à Toronto vient justement de publier les résultats d'une étude sur les infections respiratoires sévères chez les enfants du Nunavut. C'est dans la revue Pediatric Infectious Disease Journal. Et oui, conclut-elle, les Inuits sont plus vulnérables devant les infections des voies respiratoires, devant l'aggravement de ces infections. le simple fait d'être Inuit multiplie par 4 le risque d'hospitalisation suite à une infection des voies respiratoires. Il y a donc peut-être des facteurs génétiques et immunitaires qui sont à l'œuvre. Mais ces facteurs ne doivent pas porter ombrage à d'autres facteurs, des facteurs qui sont plutôt socio-économiques, comme les conditions de vie. La promiscuité, par exemple. Le fait de vivre dans des logements surpeuplés multiplie par 2,5 le risque qu'un jeune enfant soit hospitalisé à la suite d'une infection des voies respiratoires. D'autres facteurs de risque, le fait de ne pas être allaité, le tabagisme pendant la grossesse et la vie rurale, loin des agglomérations. Ces données sur les enfants inuits s'appliquent aux enfants des Premières Nations. Anna Banerjee.
The children in the places where I've studied, on average, 1 in 3 kids end up being hospitalized.
Dans les endroits que j'ai étudiés, en moyenne, 1 enfant sur 3 aboutit à l'hôpital. Dans le sud, ce serait plutôt 1 sur quelques centaines pour des infections respiratoires. Si vous regardez les taux de virus respiratoire syncytial chez les enfants de moins de 1 an, environ 16% se retrouvent à l'hôpital dans les unités respiratoires.
About 1 to 2% of kids that get RSV are hospitalized, and out of that, maybe 1 in 4 kids. So it's like 0.5%.
Dans le sud, c'est plutôt 0.5%. 0.5% comparé à 16%, c'est quoi? 30 fois plus élevé.
That's a big difference.
It's a huge difference. It's a huge difference. People become very complacent.
C'est une différence énorme. Les gens sont devenus indifférents parce que la situation dure depuis si longtemps. Alors on passe outre le fait que chaque année, les enfants du Nord courent 1 risque sur 20 d'avoir besoin de soutien vital.
Chance of being put on life support, and that's probably like 1,000 times higher than in the south.
C'est probablement 1,000 fois plus élevé que dans le sud. Ce sont des taux extrêmement élevés, et ça se passe dans l'indifférence. Mais le virus H1N1 vient mettre ces écarts en évidence.
A lot of the discrepancies. It is concerning. We've already seen that the rates of mortality.
C'est préoccupant. Comparé aux populations du Sud, les taux de mortalité sont disproportionnellement élevés chez les Premières Nations et chez les Inuits. Plusieurs personnes ont contracté le H1N1 et pour beaucoup d'entre eux, même chez les Autochtones, la maladie a été mineure. Mais quand il y a eu des décès, ce fut souvent dans les populations aborigènes. Maintenant, si le virus devait muter et devenir plus sévère, comme ce fut le cas lors de la dernière pandémie en 1918, ça pourrait avoir un impact disproportionné chez les peuples aborigènes. Mais on ne sait pas ce qui va arriver. Tout ce qu'on peut dire, c'est que si le H1N1 devient plus virulent, ce sont les Autochtones qui courent le risque le plus élevé.
C'était Anna Banerjee. Alors, pour illustrer ces inégalités des populations devant la maladie, devant la grippe H1N1, par exemple, j'ai fait appel à Bernard Roy. Il est anthropologue et infirmier, professeur au département des sciences infirmières de l'Université Laval, et j'ai joint M. Roy à Natashquan.
Moi, je ne suis pas un spécialiste de la question du virus H1N1 du tout. J'ai travaillé beaucoup en milieu autochtone sur la question du diabète. Par contre, quand j'ai entendu aux nouvelles qu'il y avait des communautés au Canada, où est-ce que le virus commençait déjà à faire des ravages, j'ai pas du tout été étonné. Pourquoi? Pas en raison de questions génétiques ou quoi que ce soit. C'est quand on connaît la réalité dans plusieurs communautés autochtones, la pauvreté, l'exclusion, la malnutrition sont des réalités qui prêtent flanc à de nombreuses maladies.
Et ça, c'est très vérifiable, par exemple, quand les communautés vivent côte à côte. Il y a des différences, même quand elles sont géographiquement proches, entre les communautés autochtones et non autochtones.
Bien oui, comme moi, d'ailleurs, on se parle, puis moi, je suis à Natashquan. Et ici, à Natashquan, on a une population Innu et une population, on va dire, j'aime pas dire blanche, là, on va dire Makakin.
D'accord.
Les Makakins, c'est des descendants des Acadiens qui sont ici depuis environ un peu plus de 150 ans. Et si on regarde l'état de santé des uns versus des autres, la population Innu, qui est à moins de 5 km là, dans son village, l'état de santé des Innus est de beaucoup inférieur à celle des Makakins. Pourtant, la population des Makakins, c'est pas une population de gens vivant dans des conditions sociales et économiques très favorables. Et pourtant, leur état de santé est supérieur.
Est-ce qu'il faut regarder la biologie? Est-ce qu'il faut regarder l'immunité? Est-ce qu'il faut regarder la génétique?
Moi, je ne suis pas très favorable. Bon, vous savez que j'ai une formation d'anthropologue, je suis infirmier. L'expérience que j'ai depuis 1986 en milieu autochtone m'amène à dire que ce qui est d'abord à prendre en considération, c'est pas tant les facteurs génétiques, c'est d'abord et avant toute chose les conditions de vie. La pauvreté, l'exclusion, comme je vous disais tantôt, la malnutrition. J'ai écrit un chapitre il n'y a pas très longtemps, justement, pour démontrer que l'état de santé, par exemple, souvent on va dire que les Autochtones n'ont pas un accès égal au système de santé que la population canadienne ou québécoise en général. Les propos que je vais tenir là, je ne peux pas les généraliser à l'ensemble de la population canadienne, mais je connais bien les Autochtones d'ici au Québec, pour avoir travaillé chez les Niskapi, les Innus, les Cris, les Inuits, les Atikameks. Et en général, l'accessibilité des Autochtones au système de santé est, selon moi, et même John O'Neill, qui est un sociologue de l'Ouest canadien, j'estime que leur accessibilité au système de soins de santé est de beaucoup supérieure à celle que de plusieurs membres de la population québécoise ou canadienne. C'est pas là que ça se joue. Et si je compare, par exemple, ici, comme tout à l'heure je vous disais, la population macaquenne, les Blancs de Natashquan, leur état de santé est quand même relativement supérieur à celui des Autochtones. Là, moi, je vais questionner des choix de vie, les choix alimentaires sur la réserve. Ici, on a probablement un manque de logement, beaucoup de proximité, de la promiscuité. Fait que quand on arrive avec un virus qui rentre dans une communauté comme Pointe Parent ici à côté, il y a de grandes chances que le virus trouve les conditions favorables à sa transmission, alors qu'ici, du côté des non-autochtones, des Blancs, des Macaquins, les conditions seront pas du tout les mêmes et beaucoup moins favorables à la transmission.
Bernard Roy, anthropologue, infirmier, professeur au département de sciences infirmières de l'Université Laval. Des causes sociales, économiques, culturelles parfois, qui ont une incidence sur la vulnérabilité des populations autochtones canadiennes devant la possible pandémie de grippe H1N1. Mais ce virus, il est déjà là, il est déjà à nos portes. On l'attend avec plus de vigueur encore à l'automne, peut-être même plus virulent encore. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que les problèmes de pauvreté, d'exclusion, de logement des communautés autochtones ne seront pas tous réglés d'ici l'automne au Canada. Que faire alors? J'ai soumis la question à Anna Banerjee, spécialiste des maladies infectieuses chez les enfants.
Les populations aborigènes doivent être traitées très tôt et de façon agressive avec le Tamiflu s'il y a des éclosions dans la communauté ou dans la maisonnée. Il faut aussi que nous ayons des directives en place avant les éclosions. Et puis, il faut s'attaquer aux facteurs de risque comme la pauvreté, la promiscuité, pas seulement pour le H1N1. On ne sait pas si le H1N1 va diminuer ou s'il va s'installer pour plusieurs années. On ne le sait vraiment pas. Mais pas seulement pour le H1N1, pour les virus respiratoires et les autres infections, la tuberculose qui affecte les populations autochtones, il faut s'attaquer à certains facteurs de risque. Nous avons ratifié des conventions des Nations Unies sur la santé ou les droits des enfants, et ces conventions incluent l'accès à une habitation sécuritaire, l'accès à l'eau et à une nourriture adéquate. Il faut prendre en compte ces réalités, et pas seulement pour le H1N1, pour les épidémies futures aussi. D'après notre étude, nous savons que nous devons encourager l'allaitement en disant, par exemple, aux mamans qu'en allaitant, elles réduisent le risque que leur enfant souffre d'une forme sévère de H1N1. Nous pouvons rappeler aux mères de ne pas fumer pendant la grossesse, ça réduirait les risques de H1N1 sévère ou de virus respiratoire syncytial. Il faut que nous nous attaquions à la promiscuité, il faut vacciner le plus possible, il faut assurer un accès à la nourriture saine. Tout le monde peut avoir accès à de la bière bon marché au Canada, on devrait aussi réussir à fournir de la nourriture saine à un coût abordable. Il nous faut des lois qui assurent un standard minimum pour le logement. Il faut s'assurer que les ressources soient disponibles pour fournir ce minimum. Ça doit devenir illégal que des citoyens vivent dans des conditions de promiscuité sous les normes, sinon les gouvernements doivent en être tenus responsables.
Dr Anna Banerjee, spécialiste des maladies infectieuses chez les enfants, pédiatre à l'hôpital St. Michael's de Toronto et auteur d'un article qui vient d'être publié en ligne sur la santé respiratoire des enfants inuits dans la revue Pediatric Infectious Disease Journal.
Ici Lily Marin, journaliste au site Internet des Années Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années Lumière.
Une idée comme ça. Et si, après avoir participé à dérégler le climat planétaire avec ses inventions, l'être humain en créait d'autres pour renverser la tendance? Ça s'appelle le géo-engineering ou la géo-ingénierie. Et c'est un des nombreux sujets qui ont été abordés cette semaine lors d'un congrès sur le climat, un congrès qui se tient à Montréal, Gaëlle-Lucia Berdeau.
Un congrès qui réunit des météorologues, des océanographes et des glaciologues pour faire le point sur les connaissances au sujet du réchauffement de la planète Terre. On a parlé de fonte des calottes glaciaires, de hausse du niveau des mers, de hausse des températures, entre autres. Ça, c'est pour les observations. Mais pour ce qui est des moyens à prendre, outre la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui causent ce réchauffement, certains chercheurs proposent des techniques, des technologies, soit pour réduire la quantité de carbone dans l'atmosphère, soit pour diminuer carrément la température de la planète. C'est ça qu'on appelle la géo-ingénierie.
Et ça ressemble à quoi, ces technologies, ces techniques-là?
Bien, il y en a toute une variété. Certaines sont relativement simples. On peut même ranger dans cette catégorie le fait de faire des plantations d'arbres à grande échelle pour séquestrer du carbone. On peut aussi penser à la captation du carbone dans laquelle le Canada investit. Ça, c'est quand on injecte les émissions de gaz à effet de serre dans le sous-sol de la Terre au lieu de les envoyer dans l'atmosphère. Mais ça, c'est la version simple. Il y en a d'autres beaucoup plus originales, des technologies dont j'ai parlé avec Michel Bélan, qui est chercheur en Environnement Canada et qui préside cette fameuse conférence sur le climat.
Ce serait une façon, si vous voulez, d'essayer de diminuer les impacts des changements climatiques en modifiant de façon importante certains des paramètres qui contribuent au réchauffement planétaire. Alors, il y a un certain nombre d'ingénieurs ou de chercheurs qui sont arrivés avec des projets, si vous voulez, ou des idées pour essayer de... Par exemple, on sait que le plancton absorbe le CO2 atmosphérique et la vitalité, si vous voulez, du plancton semble liée à l'absorption du fer, enfin d'un oxyde de fer dans les eaux océaniques de surface, parce qu'on a noté que là, il y en avait beaucoup. Il y avait aussi beaucoup de vie planctonique. Donc, un des projets, par exemple, qui est vu jour, ce serait de saupoudrer d'oxyde de fer certaines zones océaniques pour qu'on développe la vie planctonique.
D'ensemencer les océans.
D'ensemencer les anxifères. Alors, le même fait de façon expérimentale pour voir si ça fonctionnait. Il y a eu des résultats mitigés, d'après ce que j'ai compris. Ça a plus ou moins bien marché. À un endroit, ça a donné une certaine augmentation. Ailleurs, ça n'a rien donné. On se demande encore pourquoi, je crois. Mais bon, ça, c'est un exemple. Donc, l'idée, c'est qu'on augmente le plancton ou les algues. Ça engrange plus de CO2, donc ça limite l'augmentation du CO2. Une autre solution, c'est de faire quelque chose de similaire, mais dans la haute atmosphère. Alors, on sait que lorsqu'on met des aérosols, des poussières, comme des poussières volcaniques, par exemple, dans la haute stratosphère, ça peut rester plusieurs années en circulation avant de se déposer par la sédimentation. Alors, si vous mettez des aérosols, vous diminuez l'impact du rayonnement solaire, de moins de lumière essentiellement. Donc, on réchauffe moins la surface et donc on refroidit la surface de la Terre.
Michel Bélan d'Environnement Canada. Gaëlle, Monsieur Bélan parle de stopper, de bloquer les rayons du soleil un peu, de saupoudrer les océans pour stimuler la croissance du plancton. Il a parlé de certaines expériences, mais est-ce qu'il y a de ces projets de géo-ingénierie qui ont déjà subi le test de la réalité?
Pas énormément, en tout cas pas encore. C'est généralement l'idée de réduire l'effet du soleil sur la température terrestre qui retient le plus l'attention. Certains proposent de le faire en envoyant des milliers de réflecteurs en orbite autour de la Terre, ça c'est l'idée, disons, la plus farfelue, ou encore, comme le disait M. Bélan, de lancer des aérosols dans l'air pour créer une sorte d'écran. J'en ai parlé avec Damon Matthews, qui s'est intéressé à cette question dans le cadre de ses recherches au département de géographie, planification du territoire et environnement de l'Université Concordia.
Il n'y a pas beaucoup d'exemples des gens qui ont déjà essayé, et beaucoup des idées sont comme de la science-fiction, comme mettre des miroirs en espace, ou quelque chose comme ça. Et il y a des gens qui ont fait des simulations avec les modèles de climat pour voir ce qui se passe quand on diminue la radiation qui entre l'atmosphère, quelque chose comme ça. Mais dans le monde vrai, il n'y a pas des expériments qui ont été conduits jusqu'à maintenant.
Mais vous avez fait ça, vous avez publié des études où vous avez fait des modèles justement pour voir ce que ça pourrait donner?
Oui, dans mon recherche, une petite portion de mon recherche, c'est les simulations avec un modèle du climat. Et juste pour mieux comprendre, si on pouvait réduire la radiation solaire qui entre l'atmosphère, qu'est-ce que ça va faire au système climat?
Alors, qu'est-ce que vous avez conclu quand vous avez fait ces simulations-là?
Il y a les différentes choses que les gens ont découvert. Il y a des gens qui se proposent qu'il y aura des effets sur la précipitation, peut-être moins de précipitation à cause de moins de radiation solaire. Ça affecte le cycle de l'eau et donc la précipitation. Donc,
ça diminue évidemment l'évaporation, on
imagine? Ça peut diminuer l'évaporation et en plus ça diminue la précipitation. Il y a des autres études qui ont recherché l'effet sur l'ozone et la destruction de l'ozone. Et ils ont trouvé que les aérosols dans la stratosphère, ça peut accélérer la diminution de l'ozone. Donc c'est un problème pour les prochaines 50 années ou quelque chose comme ça.
Mais est-ce que ça fonctionne pour faire diminuer la température et à quel point?
Oui, donc les modèles de climat nous disent que si on met des aérosols dans la stratosphère ou quelque chose comme ça, ça va diminuer la température, mais il y a des autres effets qui arrivent à cause de l'action. Un autre que j'ai recherché, c'est la conséquence, si on réduit la radiation solaire qui entre l'atmosphère et on ne réduit pas les émissions, il faut toujours augmenter la réduction de solaire pour continuer à combattre l'effet des gaz dans l'atmosphère. Donc, si on arrête le géoengineering, il y aurait des concentrations très élevées dans l'atmosphère des gaz d'effet de serre. Donc, le changement climatique qui arrive à ce moment serait très rapide à cause de quand on enlève le géoengineering.
Donc, il faudrait continuer à le faire tout le temps.
Donc, dans ce scénario, si on commence, il faut continuer pour toujours. Oui.
Et surtout, ne pas s'arrêter. Damon Matthews, Université Concordia. Gaël, pour l'instant, évidemment, ça ne semble pas être la solution numéro un, l'excellente solution pour le problème du réchauffement de la planète. Alors, dans ce cas-là, outre le plaisir de l'imagination, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à mener des travaux en géo-ingénierie?
Mais la question suscite beaucoup de réactions chez les scientifiques. Certains croient que c'est beaucoup trop risqué à cause des conséquences dont parlait M. Matthews, alors que l'autre, comme Damon Matthews, pense au contraire que si on veut éviter de faire des grosses bêtises et même peut-être de créer des problèmes en voulant en régler un autre, il va falloir explorer ces avenues-là.
Moi, je pense que c'est probablement juste une idée fou pour le faire du tout. Mais je suis peur qu'il y a des gens qui veulent le faire et peut-être il y a des gouvernements qui peuvent le faire par lui-même, sans consulter le reste du monde. Donc, je pense que c'est important que la discussion est en public et que tout le monde pense de ce que la conséquence sera de cette action pour minimiser le change qu'on le fait avec pas de compréhension de les effets.
Et est-ce que cette discussion est facile à avoir? Parce que pendant la présentation que vous avez donnée dans cette conférence, les réactions ont l'air assez passionnées. En fait, ont l'air des fois très... les gens se braquent un peu, les scientifiques se braquent un peu à l'idée de cette géo-ingénierie. Est-ce que les scientifiques eux-mêmes sont capables d'avoir cette discussion-là sereinement?
Ah, c'est difficile. C'est un sujet très émotif. Et je pense que c'est difficile de se parler objectivement.
Pourquoi c'est si émotif?
Parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne, le système climatique. Donc, je pense que ce n'est pas possible de savoir ce que la conséquence sera si on commence le geoengineering. Donc, et en fait, c'est une question de comment on veut habiter dans le monde. Si on veut minimiser notre effet sur l'environnement ou si on veut contrôler l'environnement. C'est beaucoup une question philosophique et je pense que tout le monde a une réaction émotive à l'idée de géoengineering qui reflète notre opinion à ce que c'est d'être dans le monde.
Mais dans le fond, vous semblez partager l'opinion de ceux qui sont très critiques, mais contrairement à eux, vous dites « mais il faut quand même trouver des fonds et des moyens pour l'étudier, parce qu'il faut savoir ce que ça peut donner pour mieux connaître les dangers que ça comporte ».
Oui, ouais. Moi, je pense que c'est important de le discuter, de le comprendre aussitôt mieux qu'on peut, pour prévenir les actions stupides.
Damon Matthews, oui, qui parle des émotions, d'un sujet émotif, scientifique, mais émotif aussi, et qui parle d'actions stupides que certains pourraient poser.
Oui, et c'est un peu pour ça que plusieurs chercheurs préfèrent jouer de prudence pour éviter ces actions stupides. Ils préfèrent, eux, mettre leurs œufs dans d'autres paniers et surtout les fonds de la recherche ailleurs. On va entendre là-dessus Michel Bélan.
C'est tellement complexe. Les interactions, les feedbacks non linéaires sont tellement complexes que mon expérience à moi, c'est que chaque fois que l'homme a essayé de se montrer un peu plus fin que la nature, il s'est fait avoir. Hein? Et donc, pour des choses comme ça, je serais très, 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 très prudent avant de me lancer dans des... On n'est même pas foutu de construire, pour moi, des séries de canaux. Je prends l'exemple aux États-Unis, par exemple, tout le système de canaux qui a été fait dans le milieu des États-Unis est directement responsable de l'ensablement, par exemple, de la bouchure du Mississippi et indirectement de la catastrophe qui s'est causée à Katrina. On n'avait pas prévu ça. Idem dans le sud de la Floride. Puis je prends cet exemple aux États-Unis, mais on pourrait faire la même chose au Canada. Je veux dire, chaque fois qu'on intervient dans l'environnement, que ce soit, par exemple, en faisant des monocultures, du super porcherie de 2000 porcs, c'est peut-être lié à l'apparition de virus qui ont tué un jour. Je veux dire, pour moi, on devrait... Ma philosophie à moi, c'est que ça fait des millions d'années que les phénomènes naturels existent. Avant de commencer à se montrer plus fin, on devrait peut-être observer de très près pourquoi ça existe de cette façon-là, puis s'en inspirer avant de commencer à jouer. Puis de toute façon, la vraie solution, c'est pas de foutre des parasols dans l'espace, c'est de changer peut-être de mode de vie puis de trouver d'autres sources de combustion. C'est mon opinion personnelle. Là. C'est pour ça que j'en ris un peu.
Mais ceux qui prônent ça disent, bien, en attendant que nos décideurs prennent finalement les bonnes décisions pour que les quantités de CO2 rejetées dans l'atmosphère diminuent enfin, il va bien falloir faire quelque chose.
Le problème, c'est que les choses faites en attendant ont malheureusement, c'est des fois, tendance à perdurer et permettre à nos décideurs un cheap escape, je dirais. Alors, attaquons-nous le vrai problème.
Une espèce de mise en garde contre la broche à foin de Michel Bélan, qui préside cette conférence sur le climat à Montréal. Et il n'est pas question que de géo-ingénierie. On parle de météorologie, de scénographie, de glaciologie aussi.
La fine pointe des modèles climatiques, par exemple, de ce qui se passera à cause du réchauffement, etc., ça se poursuit jusqu'à mercredi à Montréal.
Merci, Gaëlle.
Je vous en prie.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir en deuxième heure, notre série Les Stars des étoiles. Cette semaine, Copernic.
L'œuvre de Copernic, c'est une bombe à retardement. Au début, il n'avait pas d'opposition et n'oublions pas que son œuvre est dédiée au pape. Il y a une dédicace célèbre et ce que dit Copernic, c'est que je vais montrer l'harmonie du monde et c'est à la gloire du Créateur. Donc, au début, si vous voulez, les choses vont assez bien malgré quelques oppositions. C'est beaucoup plus tard que l'Église s'est opposée quasiment férocement, pour dans certains cas violemment, à la thèse copernicienne.
Moment du courrier des auditeurs. La question cette semaine nous ramène en quelque sorte dans le Grand Nord. Notre auditeur s'interroge sur la diète des Inuits qui traditionnellement mangent peu de fruits, peu de légumes, beaucoup de viande, beaucoup de graisse animale, ce qui peut paraître à première vue contraire à une diète considérée comme équilibrée.
Pourquoi les Inuits du Grand Nord canadien, qui s'alimentent principalement de chair et vivent dans un climat arctique extrême, donc sans végétation pendant des mois, vivent pleinement sans vitamine C? alors que les explorateurs, surtout européens, mouraient du scorbut, une maladie grave. Merci, Jacques-Étienne Brodeur, Vancouver Nord.
Pour répondre à cette question, Hugues de Roussan s'est entretenu avec Éric de Boilly, professeur à la Faculté de médecine à l'Université Laval et à l'Institut national de santé publique.
La question est très intéressante parce qu'on a toujours l'idée que la vitamine C est dans les fruits et légumes. Hein, c'est ça qu'on nous a appris. Et en fait, la question pourrait être comment ils faisaient dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, ils ont des sources alimentaires très variées, dont une certaine quantité de nourriture importée qui contient aussi des fruits et des légumes.
Alors, je vais reprendre votre question. Comment faisaient-ils à l'époque?
Donc, à l'époque, ils étaient en complète autarcie alimentaire. En fait, ils trouvaient de la vitamine C dans toutes sortes d'animaux et de plantes. Et en pratique, si on regarde les quelques études qui ont été faites dans les aliments du Nord, on s'aperçoit qu'en fait, il y a certains aliments qui ont des concentrations assez élevées et qui leur permettent largement de ne pas avoir le scorbut. Donc, si on prend par exemple, on pense à qu'il nous faut 10 mg par jour hein, pour pas avoir le scorbut, enfin un peu plus, c'est toujours recommandé. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'aliments qui ont autour de 26, 30, 40 mg par 100 grammes. Ce qui fait que ça va très vite pour avoir sa dose journalière. Et en particulier, on trouvait ça, évidemment, au printemps, c'était plus facile avec les petites baies sauvages. Mais en ce qui concerne les saisons des chasses, on trouvait en particulier dans le foie des mammifères marins et du phoque des concentrations assez élevées. Et une source très intéressante aussi, c'était le mactaque, c'est-à-dire la peau du beluga, qui est encore largement consommée aujourd'hui, hein, qui a des concentrations très élevées, autour de 30 à 40 mg pour 100 grammes. Mais on avait aussi les œufs de poisson, qui sont très riches en vitamine C, hein, autour plus de 50 mg pour 100 grammes. Et finalement, d'autres sources qui pouvaient être gardées beaucoup plus pendant l'hiver, c'était les laminaires, donc les algues, les grandes algues, les kelps, qui contiennent également des concentrations importantes de vitamine C. Enfin, tout ça pour dire que on avait dans les poissons, mammifères marins et certaines plantes, de quoi tout à fait survenir à ces besoins en vitamine C. Ce que ne savaient pas, dans le fond, les premiers explorateurs qui sont arrivés là et qui avaient emmené leurs propres aliments et qui sont arrivés assez vite en déficit en vitamine C en particulier. C'est une alimentation qui peut paraître un petit peu particulière parce qu'elle est basée sur la viande, donc les protéines et le gras. Il n'y a pas de sucre du tout, donc faut jamais oublier ça. L'énergie donc vient des graisses qu'on brûle, mais c'est pas tout à fait différent de nos propres ancêtres qui, dans leur caverne, mangeaient du gibier et quelques plantes. Il n'y avait pas non plus beaucoup de sucre. Donc, c'est toujours intéressant de se dire l'espèce humaine, comment elle a pu, au départ, survivre. Et finalement, les Inuits, c'est un des peuples qui a pu le faire il n'y a pas très longtemps et qui, d'une certaine manière, le fait encore un petit peu.
Donc, quand on va sur le site Internet de Santé Canada et on prône de manger 10 parts de fruits et des légumes par jour pour avoir sa dose de vitamines nécessaire, c'est pas obligatoire, en tout cas pas dans le Grand Nord.
Ben, c'est sûr que Santé Canada fait des recommandations pour la majorité des Canadiens, mais si vous allez au Nunavut ou dans les territoires du Nord-Ouest ou même au Nunavik, vous avez des guides alimentaires pour les Inuits qui sont très différents, dans lesquels on va voir le foie de phoque en bonne place. Mmh. Donc c'est adapté, les recommandations sont adaptées localement. En mangeant une alimentation, dans le fond, basée sur la plupart des éléments qui viennent de la mer, surtout, on a tout ce qu'il faut pour en vitamine C et en autres vitamines, d'ailleurs.
C'était Éric de Boilly, professeur à la Faculté de médecine à l'Université Laval et à l'Institut national de santé publique. On attend vos questions de nature scientifique avec un grand appétit. On a hâte de trouver des experts pour y répondre. Alors, pour nous joindre, vous le faites par téléphone de la région de Montréal au numéro 514-597-6166, 597-6166. De l'extérieur de la région de Montréal, vous composez le 1-800-752-9050, 752-9050. Vous préférez le courriel? Écrivez-nous à l'adresse suivante, lumière@radio-canada.ca. Dans quelques instants, la chronique des années-lumière en rappel avec notre animateur en vacances, Yannick Villedieu.
chronique des années-lumière pour terminer cette première heure, comme à l'habitude, cette semaine avec Hervé Fischer. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Hervé, vous allez nous parler aujourd'hui d'une grande question, hein, l'avenir des grandes bibliothèques à l'âge du numérique. Hein, on a des bibliothèques, des livres, mais on parle de numérisation, de pages Internet, etc., etc. Et vous partez d'un événement qui s'est déroulé à Québec cet été. Tout s'est passé à Québec cet été, évidemment.
Mais oui, bien sûr, 400e oblige. Mais disons, le Québec a été le rendez-vous cette année de deux grands congrès. Le congrès des grandes bibliothèques publiques francophones, oui, animé par Mme Lise Bissonnette. Et puis le congrès mondial de la Fédération internationale des bibliothèques et de l'information, l'IFLA, à Québec. Et qui est le congrès qui change de continent chaque année. Mmh, qui est l'événement majeur avec 4000 personnes. Mmh. Alors là, effectivement, on a abordé toutes les questions et celle qui, évidemment, personnellement, m'intéressait le plus, c'était est-ce qu'on doit encore faire des bibliothèques à l'âge du numérique alors que, oui, tout migre dans le virtuel.
Mm-hmm. Est-ce qu'on doit couper des arbres pour imprimer des livres? Oui, ou des encyclopédies, enfin bref.
Oui, on devrait recycler le virtuel aussi. Oui, oui, bon, en tout cas, cette question-là est majeure et la réponse n'est pas évidente. On a une sorte de paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on développe des bibliothèques virtuelles de plus en plus puissantes, oui, et avec succès, et nous n'avons jamais autant construit de grandes bibliothèques publiques en béton, en acier, en verre, qui sont monumentales, qui sont des sortes de cathédrales de la connaissance.
On pense à la très grande bibliothèque à Paris qui est oui, superbe. On pense à la grande bibliothèque du Québec à Montréal, oui.
Oui, mmh. Puis dans d'autres villes du Canada, il y a des bibliothèques extraordinaires qui ont été construites récemment et qui ont un grand succès.
Oui.
Il ne faut pas seulement mentionner la monumentalité. Les bibliothèques traditionnelles ont un succès de fréquentation qui dépasse toutes les attentes. Alors ça, c'est troublant comme paradoxe, et c'est peut-être ça dont on devrait parler aujourd'hui.
Oui, alors parlons-en justement. Donc, pourquoi est-ce qu'on va encore, ou pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de bibliothèques?
Oui, puisqu'elles sont pleines, c'est que les bibliothèques, ce sont aussi des lieux de socialisation, des lieux de rencontre. Quand on va à la grande bibliothèque publique à Montréal, on voit les familles. À la grande bibliothèque publique du Centre Pompidou, on voit les immigrants qui viennent refaire l'Europe centrale dans le rez-de-chaussée de la grande bibliothèque publique du Centre Pompidou. Il y a une activité éducative. En fait, les grandes bibliothèques sont en train de changer de fonction. Elles sont plus seulement des lieux de conservation, c'est quand même fondamental.
De livres, oui.
Et, et d'accès pour les lecteurs, les gens sérieux là, qui viennent faire des thèses, mais aussi pour les enfants qui viennent lire des bandes dessinées, qui vont regarder les écrans des ordinateurs. Au fond, les grandes bibliothèques deviennent des sortes de maisons de la culture.
Mais des maisons de la culture qui pourraient alimenter leurs visiteurs uniquement avec des pages virtuelles, avec des pages prises sur Internet, avec des livres électroniques. Donc on revient à la question, on imprime encore des livres pourtant.
Mais oui, mais c'est ça. La question est à plusieurs étages parce que on voit toutes les compagnies qui nous offrent successivement depuis 10 ans des e-books, des livres électroniques plus extraordinaires les uns que les autres. Les deux derniers de Amazon et de Sony peuvent permettre de charger par Internet jusqu'à 100-120 livres et on peut les lire très confortablement. On peut zoomer sur le texte. On a une belle qualité de l'écran qui est mat, pas comme du papier. L'encre aussi est mat et ça devient très confortable de lecture. Mais pourquoi ça ne marche jamais?
Oui.
Alors pourquoi est-ce que nous n'acceptons pas finalement? Il n'y a pas de succès commercial pour le livre électronique et personne ne lit naturellement sur un écran d'ordinateur parce que là, la qualité de lecture est vraiment pas acceptable pour la fatigue visuelle. Mmh. Bon. Alors, il faut croire que nous sommes demeurés très attachés à cet objet, le livre. Nous sommes restés très attachés à cette activité sociale qui est d'aller à la bibliothèque publique. Et les changements humains sont plus lents que les changements technologiques.
Bien sûr.
Mais aussi, je pense qu'il y a un autre aspect que je voudrais souligner. C'est que le numérique a un talon d'Achille et une extraordinaire vertu. Le talon d'Achille, c'est que le numérique, contrairement à ce qu'on dit et contrairement aux investissements qu'on a faits d'une façon répétitive, nous assure une très mauvaise conservation, mémoire.
C'est étonnant parce qu'on dit qu'on peut faire des copies oui. informatique, par exemple, d'un texte et l'avoir pour toujours.
Non, pas pour toujours, parce que le logiciel va changer, le lecteur va changer. Oui. C'est justement la question, c'est que la technologie progresse trop vite, elle se cannibalise, ça suffit, c'est pas nécessairement de dire auto, elle se cannibalise, c'est-à-dire qu'elle rend obsolète les formats précédents et il faudrait constamment actualiser. Sans compter les grandes catastrophes informatiques de l'an 2000 ou autres dont nous avons tous.
Oui. Alors, mais si on mettait toute cette information-là sur Internet, on aurait plus ce problème de technologie ou de support qui change.
C'est ça l'idée, mais la lecture demeure comme une sorte de rituel individuel. Ça demande du calme, ça demande de s'arrêter. L'agitation face à un écran d'ordinateur est contraire. Pour penser bien, il faut penser lentement. C'est une chose que je dis souvent. Et l'activité de pitonner sur un clavier, d'aller de lien en lien, n'est pas favorable par rapport à cette sorte de rituel calme de tourner les pages d'un livre et de se concentrer, d'oublier le monde extérieur.
Lire un poème, quelques poèmes ou lit avant de s'endormir, par exemple, c'est une très belle chose.
C'est un de mes délices.
Ah oui.
Mais effectivement, je vais pas amener même un e-book qui va dégager de la chaleur à la plage dans mon lit pour le lire.
Ou de la froideur, peut-être.
Donc, il y a des rituels fondamentaux, et même si on a dit que l'Internet, c'est la grande imprimerie du 21e siècle qui succède à Gutenberg, ce qui est une idée extrêmement intéressante à développer, je pense que là, nous demeurons des êtres ambigus.
Alors, on revient à la question du début. Est-ce qu'il est sage de continuer à construire, vous dites on en construit même de plus en plus, des bibliothèques, des temples de béton et de verre aujourd'hui au XXIe siècle.
Oui, en même temps qu'on a quelques 120 milliards de pages sur Internet.
Bon. Oui.
Mais je crois qu'effectivement, il faut faire les deux. C'est-à-dire que nous sommes des êtres hybrides qui utilisons l'Internet pour l'accès, qui est quasiment magique. On peut accéder à des manuscrits intouchables. Oui. Tout ça. Et en même temps, nous avons besoin d'un rituel individuel et collectif en même temps, de lecture et de rencontre, qui est démontré par les faits. Même si je ne suis pas sociologue, je vois bien la fréquentation à la Grande Bibliothèque publique, la Grande Bibliothèque de Montréal. Donc, nous sommes dans une situation d'hybridité et c'est bien comme ça.
Et donc, il va falloir continuer à imprimer des livres. D'ailleurs, vous-même, vous en écrivez, vous en imprimez des livres.
Oui, parce qu'ils sont plus lus quand ils sont imprimés sur papier, que j'ai remarqué, que quand ils sont sur Internet. Ça aussi, ça fait partie de cette sorte d'ambiguïté. Nous sommes sur une planète web qui demeure humaine.
Hervé Fischer, je vous remercie beaucoup.
Merci.
Et voilà, c'est ce qui termine cette première heure des Années-Lumière. J'en profite pour vous parler de l'émission Découverte. Ce soir, à 18h30, à la télévision de Radio-Canada, on pourra voir la suite de l'histoire de la NASA racontée par la BBC. L'épisode de ce soir s'intitule Triomphe et tragédie. Il sera question des catastrophes des navettes Challenger et Columbia et plutôt du sauvetage de la mission Apollo 13. Mais d'ici là, restez des nôtres, à la radio évidemment, pour la suite des Années-Lumière après le bulletin de nouvelles. Les Années-Lumière, deuxième heure. Rebonjour, rebienvenue, c'est toujours Sophie-André Blondin qui vous parle. Au menu de cette deuxième heure, physique de femmes. Non, c'est pas ce que vous croyez. La physique des femmes, une des initiatives mises sur pied pour attirer plus de femmes en sciences. Des initiatives décrites dans un reportage qu'on vous présente en rappel. Il y aura le petit journal de la science, bien sûr, et l'auteur de la semaine, Jean Léveillé, médecin pour les humains, mais grand passionné des oiseaux. Il nous présente son dernier livre, Les oiseaux explorateurs. Mais auparavant, la série des années-lumière. Les stars des étoiles. Tout l'été, nous soulignons l'année mondiale de l'astronomie en demandant à des astronomes de nous raconter la vie, le parcours et les contributions d'astronomes célèbres ou qui mériteraient d'être célèbres parce qu'ils ont contribué à façonner notre compréhension de l'univers. Aujourd'hui, nous allons parler de celui par qui tout arriva, celui qui déclencha ce qu'on appelle la révolution copernicienne et qui changea à jamais la face du monde et notre vision de l'univers. Nicolas Copernic est né en Pologne en 1473, il est mort en 1543. Il était à la fois astronome, mathématicien, chanoine, stratège militaire et homme politique. Hugues de Roussan s'est entretenu avec Jean-Jacques Tchétchignage, directeur du département d'histoire et de philosophie des sciences à l'Université de Paris Diderot. Il nous trace le portrait d'un homme qui fut en même temps bien ancré dans son époque, mais aussi en avance sur son temps.
Il a voyagé, hein, il fait partie de la tendance polonaise, il est déjà lointaine, hein, il voyageait beaucoup, il a fait plusieurs voyages en Italie. Et il faut peut-être ajouter qu'il a non seulement étudié l'astronomie dans les universités italiennes, mais qu'on lui a confié des cours alors qu'il était extrêmement jeune. Hein, à l'âge de 28-30 ans, il a déjà enseigné un cours de mathématiques et astronomie.
Il y avait beaucoup de questions sur Copernic, sur le genre de personne qu'il était. Il est né de père polonais, de mère allemande, il a écrit en latin. Oui. Il est né dans une Pologne, dans une ville, Toruń, où la majorité de la population était allemande, dans une époque un peu troublée. Certains disent qu'il était allemand, d'autres qui disent qu'il était polonais. Lui se considérait comme polonais. Les Polonais le considèrent comme un polonais. Il y a même des vers en Pologne qui rappellent la contribution de Copernic que tous les enfants apprennent à l'école et qui se disent comme suit. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię, polskiego widała plemię. Ce qui veut dire, grosso modo, il a arrêté le soleil, il a fait bouger la terre, et depuis ce temps-là, la Pologne l'honore, il est honoré par la Pologne. Il a eu tant d'importance dans l'histoire de la Pologne, c'est vraiment un personnage de marque.
Oui, oui, il a une importance dans l'histoire de la Pologne, alors pour toutes sortes de raisons. Il a une importance scientifique certaine, mais il a une importance politique également. C'est vrai qu'on le revendique comme étant polonais, mais il a été chanoine, il avait un canonicat à Varmie, hein, c'est auprès de l'évêque de Varmie, qui a été son oncle et qui l'a élevé à la suite du décès de son père. C'était une province, un évêché qui était relativement indépendant, mais qui était très proche du royaume de Pologne. Alors son importance vient de ce qu'il a été conseiller du roi de Pologne, qu'il a joué un rôle diplomatique certain, qu'il a même contribué à la défense, par exemple, de la ville de Gdansk contre les chevaliers teutoniques. Donc il a eu un rôle de stratège militaire. Donc tout ça fait qu'il a effectivement un rôle important, généralement, et plutôt pro-polonais, si on veut. Mais donc, son appartenance propre comme nationalité à la Pologne, c'est une autre affaire, bon, parce qu'elle a été recouverte par des problèmes politiques. Alors c'est vrai qu'à cause de l'histoire qui a traversé notre siècle, les Allemands l'ont revendiqué à un certain moment, le considérant comme un Allemand. Les Polonais l'ont revendiqué de l'autre côté, considérant comme un Polonais. Bon, si on enlève toute cette question, on dira plutôt qu'il est plutôt, il a plutôt droit d'être considéré comme un Polonais, mais qu'il était chanoine dans un évêché qui n'était pas à proprement parler polonais.
Nicolas Copernic a en quelque sorte révolutionné un peu la conception qu'on avait de l'univers à son époque. Comment voyait-on l'univers au moment où il s'est attaqué, qu'il a commencé à faire ses recherches?
C'était un univers qui était centré autour de la Terre, avec des planètes qui sont en rotation autour, et ces planètes étant portées par des sphères solides. Vous avez un système de sphères homocentriques qui est hérité d'Aristote, qui était en gros dominant à l'époque. Vous aviez la Terre, ensuite les planètes inférieures, Vénus, Mercure, le Soleil, et puis Mars, Jupiter, Saturne. Et puis c'était un monde assez limité, hein, donc on connaissait 5 planètes, celles qui sont visibles à l'œil nu, qui, tout ça, ça tourne autour de la Terre. Puis il y a les étoiles qui sont la dernière sphère, c'est ce qu'on appelle les étoiles fixes, qui est la sphère des fixes. Mmh. Et on considérait que cet univers était fini. C'était des sphères et limité, donc fini, c'était un aspect très important des choses. Alors il faut ajouter un autre aspect des choses, qui est que cet univers, depuis Aristote, est considéré comme divisé en 2 régions. Il y a une région qui est la région sublunaire, qui est la région sous la Lune, et une autre région qui est la région supralunaire, qui est la région au-dessus de la Lune. Et ces deux univers, ces deux régions s'opposent. La région qui est sous la Lune est une région imparfaite, c'est la région dans laquelle nous vivons, la Terre, avec des corps, et puis la Terre elle-même, il y a des poids, il y a de la boue, il y a toutes sortes de choses. Et en revanche, au-delà de la Lune, c'est le monde supralunaire, c'est parfait. C'est le monde parfait, et c'est un monde où les planètes décrivent le mouvement le plus parfait par excellence, qui est le mouvement circulaire. La circularité du mouvement est le signe même de sa perfection.
Mais cette idée de la Terre qui était au centre de l'univers n'était pas partagée par tous, déjà chez les anciens comme le grec Aristarque de Samos au 3e siècle avant Jésus-Christ. Oui. Lui avait déjà imaginé la Terre qui bougeait.
Oui, il a déjà un mouvement. Il a une hypothèse de type copernicien. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas réussi à la réaliser en un système. Mmh. Hein, et la réaliser en un système, c'est réexpliquer tout le système planétaire dans ce nouveau cadre qui est celui de la Terre en mouvement, ce qu'a fait Copernic. Aristarque, d'accord, mais il a simplement montré que cette hypothèse était possible sans en donner une assise construite et systématique.
Donc il n'avait pas réussi à convaincre les gens de son temps.
Bien sûr, il n'a pas réussi à convaincre les gens de son temps. Et en fait, la théorie majoritaire est celle d'Aristote. Aristote couplée avec celle de Ptolémée.
Copernic, là, quand il a commencé à faire ses recherches, il s'attaquait à un gros morceau. C'était une vision du monde qui datait d'au moins 15 siècles, même 3000 ans, selon certains. Il s'attaquait vraiment à quelque chose de gigantesque.
Tout à fait, et c'est très étonnant. On ne sait pas tout sur cette question. On ne sait pas exactement à partir de quel moment il a forgé son hypothèse. On a toutes sortes d'hypothèses nous-mêmes pour ce qui concerne l'histoire. Mais effectivement, il a commencé, semble-t-il, à montrer que c'était tout à fait mathématiquement possible et qu'on y gagnait en simplicité. C'est vrai que grossièrement, si je peux dire, quand on fait un système qui est héliocentrique, comme celui de Copernic, il est beaucoup plus simple pour toutes sortes de raisons astronomiques que le système précédent. Après, il a fallu organiser l'ensemble du système sur la base de cette hypothèse.
Alors justement, comment il le voyait, lui, l'univers ?
Du point de vue historique, il a commencé par faire un système qualitatif qui est paru dans les années 1515-1514, qui est son premier système. Et pratiquement, il a mis plus de 30 ans à le réaliser dans une grande œuvre qui s'appelle « De Revolutionibus Orbium Celestium », « Des révolutions des orbes célestes », qui est son œuvre majeure, qui est en 6 livres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce système ? Alors, c'est un système assez compliqué, finalement. Il y a le Soleil au centre. Ce n'est pas tout à fait le Soleil, si on voulait regarder dans les détails. C'est un Soleil moyen. Et puis, vous avez les planètes qui sont en rotation autour de ce Soleil. Et contrairement à ce qu'on peut croire, Copernic pense toujours en termes de sphère solide, parce qu'il n'a pas d'autres moyens à sa disposition. Mmh. Parce que si vous voulez, la question qu'on se pose jusqu'à Newton, c'est comment ça se fait que ça tient ? Et la seule réponse correcte qu'on avait pour expliquer que tout ça, ça tient et que tout ça ne s'écroule pas, c'est que c'est sur des sphères solides. Alors maintenant, ce qu'explique Copernic, c'est sans doute les textes les plus célèbres de Copernic, c'est le premier livre du De Revolutionibus, qui est, comme disent tous les historiens, le livre que tout le monde a lu. Et alors, il donne des arguments en faveur du mouvement de la Terre. Alors, ce qu'il faut montrer, c'est que, comme le craignaient tous les anciens, il n'y aura pas de perturbation, que ça ne va pas créer une catastrophe. Parce que les gens disaient, si la Terre était en mouvement, par exemple, les oiseaux ne retrouveraient pas leur nid, parce que la Terre va plus vite que le nid des oiseaux. Donc, ou bien la Terre éclaterait dans l'espace en 1000 morceaux, parce qu'il y aurait une force centrifuge telle que... Alors, à tous ces arguments, Copernic répond d'abord que si jamais il y avait le mouvement de la Terre, s'il y a le mouvement de la Terre, il dit que c'est un mouvement, comme d'un terme qu'utilisait Aristote, il dit que c'est un mouvement naturel. Et il dit que c'est dans la nature de la Terre que d'être en mouvement. Et son argument fondamental, qui est quand même un argument assez profond, si vous voulez, c'est de dire que, en fait, la Terre n'a jamais commencé à être en mouvement. Elle a toujours été en mouvement. C'est sa nature d'être en mouvement. Et c'est à l'adversaire, les autres, de montrer qu'elle est en repos. Donc, il renverse la vapeur. Et donc, toute son argumentation, ça consiste à montrer que ben, ceux qui disent que la Terre est en repos, ben, c'est là qu'il y a des difficultés. Et il montre, il pointe toutes les difficultés qu'il y a à dire chez Aristote. Il reprend les arguments d'Aristote. Il montre que les arguments d'Aristote sont très compliqués, sont très difficiles. Alors, il y a beaucoup d'autres arguments. Alors, il y a un argument qui est un argument qui est très célèbre aussi, qui se retrouve chez les philosophes du XVIIe siècle, qui se retrouve partout. C'est un argument relativiste. Et Copernic dit ceci. On ne sait pas, parce qu'il est impossible de le dire, si ce sont les étoiles qui sont en mouvement ou si c'est la Terre qui est en mouvement. Et donc, il y a un mouvement, il reprend un argument, si vous voulez, relativiste, qu'il transpose au niveau de l'univers tout entier. Donc, on ne peut pas décider, a priori, si ce sont les étoiles, la Terre, la sphère des étoiles, ou si c'est notre Terre qui est en mouvement.
Le système que Copernic a mis au point, en fait, c'est le début d'une explication, parce qu'ensuite, il y a d'autres astronomes qui l'ont complété.
Bien sûr.
C'est lui qui a parti le bal, en quelque sorte.
Oui, il a parti bal, parce que, évidemment, il faudra construire une physique. Ça, c'est l'œuvre de Galilée. Hein, c'est Galilée qui va donner les raisons, si vous voulez, physiques pour lesquelles on ne sent rien quand la Terre est en mouvement. Et puis, il y a un complément avec un autre astronome absolument génial qui succède à Copernic, qui est Kepler, qui est un astronome fantastique et qui reprend tout le système de Copernic, mais sur d'autres bases. Hein, au lieu de dire que ce sont des cercles, parce que Copernic pensait que les planètes tournaient circulairement, Kepler explique que ce sont des ellipses et Kepler produit les trois grandes lois de Kepler. On peut dire que la boucle est bouclée du point de vue classique avec Newton, qui donne une explication physique par la théorie de la gravitation universelle, des raisons pour lesquelles le système de Copernic est vrai, et quelles sont les forces qui agissent, le champ de gravitation qui explique les parcours des planètes autour du Soleil.
Idées de Copernic, elles se discutaient à son époque, mais on ne peut pas dire qu'elles ont été acceptées, même si des savants comme Léonard de Vinci appuyaient ses idées, ça n'a pas réussi à faire passer les idées de Copernic pendant son vivant.
Non, comme dit mon collègue, enfin un astronome qui est Jean-Pierre Verdet, il dit que l'œuvre de Copernic, c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire qu'au début, il n'avait pas d'opposition, et n'oublions pas que son œuvre est dédiée au pape. Hein. Il y a une dédicace célèbre, et ce que dit Copernic, c'est que je vais montrer l'harmonie du monde, et c'est à la gloire du Créateur. Donc, au début, si vous voulez, les choses vont assez bien, malgré quelques oppositions. C'est beaucoup plus tard que là, il y a des oppositions très importantes, d'abord du côté de la réforme, du côté des théologiens réformistes et protestants, parce qu'ils interprètent l'écriture à la lettre. Et on a de nombreux passages de l'Écriture, justement, dans lesquels il est dit, par exemple, que Dieu arrêta le soleil dans sa course pour laisser passer les Hébreux. Alors, si le soleil est arrêté dans sa course, c'est que c'est le soleil qui était en mouvement. Hein, donc, ça veut dire que Copernic est contre la lettre des Écritures. Donc, il y a ça. Et puis, il y a toute la condamnation de Galilée, où Galilée est condamné. Et l'œuvre de Copernic, le De Revolutionibus, est mise à l'index. Hein, 1611, vous connaissez donc le fait que Galilée est condamné, il sort, il dit « elle pourtant, elle tourne hein. ». Mais il n'empêche qu'effectivement, l'Église s'est opposée, disons, quasiment férocement, dans certains cas, violemment, à la thèse copernicienne.
Nicolas Copernic n'a pas eu une vie de scientifique facile, puisque même durant sa vie, il ne pouvait même pas faire imprimer l'œuvre de sa vie, là, qui est le De Revolutionibus. Il a eu les premiers imprimés sur son lit de mort.
Oui, parce qu'il a fallu trouver toute une tactique pour le faire imprimer. Alors, on doit ça à son seul disciple, un personnage tout à fait extraordinaire, qui s'appelait Reticus, qui a contribué à faire imprimer le De Revolutionibus. Comme les grandes imprimeries, c'était des imprimeries qui dépendaient des universités du nord de l'Allemagne et qui étaient protestantes, hein, qui étaient dominantes, donc c'était difficile. Donc il a trouvé... Il y a eu plusieurs manières pour faire imprimer cette œuvre. Premièrement, on a commencé par éditer les tables trigonométriques, la partie trigonométrique, où ça mangeait pas de pain, si vous voulez, hein, donc ça sans risque. Et d'autre part, il y a eu cette fameuse histoire, cette fameuse préface. Donc, il y a une préface d'un inconnu dont on ne sait pas qui il était, en fait, qui défendait l'œuvre de Copernic en expliquant que ce que disait Copernic n'était pas vrai, mais simplement plus commode, que c'était une convention. Il a défendu donc une thèse conventionnaliste, comme on dit, ou encore fictionnaliste, pour faire passer le copernicianisme. Et on raconte, la légende veut, que sur son lit de mort, lorsqu'on lui a présenté le De Revolutionibus, il y avait cette préface, et il semblerait qu'il a été, ça l'a achevé de voir que quelqu'un avait pu écrire que son système ne reflétait pas le portrait réel de l'univers, n'était pas un portrait réel de l'univers.
On dit que Nicolas Copernic a déclenché ce qu'on a appelé plus tard la révolution copernicienne. Oui. Je suppose que ce n'est pas seulement une révolution astronomique, mais c'est beaucoup plus large que ça. Les gens, en ne voyant plus le monde et la Terre de la même manière, c'est toute la manière de penser qui s'est mise à changer.
Tout à fait. La Terre cesse d'être le centre du monde, et donc l'homme lui-même n'est plus le centre du monde, et c'est vrai que ça a toutes sortes d'implications philosophiques. Ça veut dire aussi que l'univers, dans son ensemble, n'est plus séparé en deux régions hétérogènes, mais qu'il est homogène. Dire que l'univers est homogène, ça veut dire que les mêmes lois de la physique sont valables partout. Donc ça, c'est aussi une grande innovation. Et on peut dire que Newton a continué dans ce sens-là pour montrer qu'il y a des lois générales, des lois de la physique qui se développent dans tous ces domaines. Enfin, en particulier pour l'univers tout entier, qu'elles sont, autrement dit, universelles.
Je rappelle en terminant que Jean-Jacques Chétignage est professeur, chercheur et directeur du département Histoire et philosophie des sciences à Paris Diderot. On peut dire que c'est un vieil ami de Nicolas Copernic. Il a d'ailleurs écrit deux livres sur lui et en a traduit un troisième de l'américain. Merci beaucoup, M. Chétignage, d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie et j'espère que ça contribuera à la connaissance et de l'astronomie et de Copernic.
Merci beaucoup.
La semaine prochaine, un peu de musique, des télescopes, des planètes, des étoiles. William Herschel.
Contrairement à ce qu'on croyait, les chimpanzés peuvent bel et bien succomber à une maladie semblable au sida. Le SIV, le virus de l'immunodéficience simienne, s'est transmis jadis aux humains sous la forme du VIH qui cause le sida. Mais les experts croyaient jusqu'à présent que le SIV ne causait pas de maladie mortelle chez les primates. Or, une équipe de chercheurs de l'Université de l'Alabama vient de démontrer le contraire. En observant pendant 9 ans une centaine de chimpanzés dans un parc national de Tanzanie, ils ont observé que le taux de mortalité des singes atteints du virus était nettement plus élevé. Qui plus est, les petits nés de mères infectées sont tous morts avant d'avoir atteint l'âge d'un an. Une femelle est même décédée avec tous les symptômes du sida à un stade avancé. Les chercheurs croient toutefois que par rapport aux humains, les chimpanzés sont moins nombreux à développer une maladie mortelle à cause du virus. Cette découverte pourrait néanmoins leur permettre de comparer son fonctionnement avec celui du VIH pour éventuellement s'y attaquer plus efficacement.
Ils sont 9. Ils ont tous le même rêve, faire des documentaires animaliers. Mais pour concrétiser cette ambition, ils devront eux-mêmes se soumettre à l'œil de la caméra. La nouvelle émission de télé-réalité de la BBC oppose ces 9 concurrents qui doivent rivaliser d'ingéniosité, de créativité et d'endurance pour croquer les meilleures images de la nature sauvage. La première émission les a envoyés sur la piste des éléphants dans les marais du Botswana. Puis, cap sur les rhinocéros et les lions du désert du Kalahari. Les concurrents iront aussi à Zanzibar en quête d'images de dauphins et de requins-baleines. Un seul gagnant ou une seule gagnante décrochera le gros lot, un emploi à la division d'histoire naturelle de la BBC. Aventurier, ne pas s'abstenir.
Des scientifiques français ont découvert comment les gouttes d'eau se formaient pendant leur descente vers le sol. Faute de moyens techniques pour expliquer leur formation, on croyait jusqu'à maintenant que les gouttes d'eau se fusionnaient avec leurs voisines pour atteindre diverses tailles et qu'elles éclataient en touchant le sol. Selon les chercheurs français, il n'en est rien. Les gouttes d'eau éclatent plutôt d'elles-mêmes au contact de l'air pendant leur descente. En chutant, elles commencent par s'aplatir. Elles prennent ensuite la forme d'une crêpe avant de former un sac qui éclate en une multitude de gouttelettes de différentes tailles. En arrivant au sol, il y a davantage de fines gouttes d'eau que de grosses. Ce phénomène, qui a été enregistré par une caméra spéciale, ne dure que quelques millisecondes. Cette nouvelle explication du mode de dispersion et de formation des gouttes d'eau pourrait avoir un impact technologique important. Par exemple, changer la manière de faire de l'épandage de pesticides dans un champ et ainsi empêcher que la moitié ne se retrouve dans le champ voisin quand il y a du vent.
Pourquoi les femmes, pourquoi les filles boutent-elles certaines disciplines scientifiques? Comment les attirer? Voici un rappel, un reportage consacré à des initiatives qui visent à attirer les femmes vers certaines disciplines qu'elles ont tendance à négliger. Science. Le mot est féminin, mais les diplômés de la science sont plus souvent masculins. Les femmes sont sous-représentées en mathématiques, en génie et en sciences physiques. Doit-on comprendre que les filles n'aiment pas les sciences? Peut-on conclure que ce sont les sciences qui accueillent mal les filles? Le Conseil canadien sur l'apprentissage, dans son rapport intitulé « Pourquoi les filles n'aiment pas les sciences », pointe du doigt des facteurs culturels et environnementaux. Les parents, par exemple, auraient une attitude différente, un langage différent lorsqu'ils répondent aux interrogations scientifiques de leurs garçons et de leurs filles. Puis toujours selon ce rapport, la perception des filles relativement aux sciences et leur expérience à cet égard éloignent les jeunes filles et les femmes des sciences et du génie. Voici donc trois initiatives qui visent à vendre aux jeunes filles les trois champs négligés par les femmes que sont les mathématiques, le génie et les sciences physiques.
Qu'est-ce que tu vois? C'est une sorte d'éclair, je sais pas, c'est... Wow.
C'est un gadget qui représente l'industrie électrique électronique.
Nous sommes à l'École polytechnique de Montréal. C'est samedi, mais 400 adolescentes sont venues écouter des porte-paroles industrielles leur vanter les mérites de leur métier dans une grande foire de l'emploi scientifique et technique.
Bien, moi, je travaille chez 5N+. C'est une compagnie québécoise qui a été fondée il y a 5 ans où on fait la purification de métaux, comme ces trois-là ici. Il y en a un que vous connaissez, le zinc. Il y a aussi des métaux qui sont plus rares, comme le cadmium, et le telluride.
L'activité Les filles et les sciences, un duo électrisant, est une journée thématique annuelle, instiguée par Nathalie Baudry il y a près de 10 ans. À l'origine, il s'agissait de régler des problèmes de recrutement.
Moi, j'étais responsable d'un programme d'embauche universitaire chez Bell Canada. Et puis, j'arrivais pas là à trouver la moitié des candidates féminines dont j'avais besoin. Et puis, j'ai fait un espèce de sondage maison avec mes collègues de d'autres entreprises dans l'industrie, soit des télécoms ou en sciences en général. Et puis, on vivait toutes le même problème. Et puis, bon, on s'est dit, faisons un événement spécialement pour les filles. À l'âge où c'est stratégique, elles doivent faire le choix de poursuivre en mathématiques, en chimie ou en physique. On veut les attraper à ce moment-là pour justement les influencer, pour leur dire, écoutez, les stéréotypes que vous avez, c'est pas vrai que vous allez vivre enfermé dans un labo pour le restant de vos jours si vous décidez de vous en aller en sciences. Il y a des jobs en sciences qui vous permettent de travailler en équipe, qui vous permettent d'être utile à la société, qui vous permettent d'améliorer le sort de la société. Alors, c'est ce qu'on essaie de le montrer aujourd'hui par les ateliers puis par les différentes activités qu'on leur offre.
Puis là, je suis professeure en avionique. Alors moi, mon rôle, c'est de prendre les étudiants qui arrivent du secondaire et de leur donner une formation de base en électronique, en électricité, puisque je vais les former pour devenir des techniciens en avionique. Ils vont pouvoir installer, réparer, concevoir tous les ordinateurs qu'il y a dans l'avion.
Tout ce qui est fabriqué, les rouleaux de papier de toilette, c'est fait avec des systèmes automatisés, les écrases-canettes dans les épiceries.
Par exemple, chez L'Oréal, toutes les teintures, le maquillage, les shampoings. Donc, il faut que ça passe par une chaîne de production, tous des systèmes automatisés comme ça. C'est ça que ça fait un technologue en électronique industrielle.
Ça veut dire que nous, on a des camions et des grues et tout ça avec des pneus à peu près de ça d'eau. On a besoin de ça pour construire des autoroutes, des barrages hydroélectriques. On creuse dans les mines.
Moi, j'ai juste une amie qui aime les sciences. Sinon, il n'y a personne à l'école que je connais qui aime vraiment ça pour en faire un métier. Les filles que je connais qui sont en sciences enrichies, ils vont surtout en médecine. Ils ne se dirigent pas du côté ingénieur, ces choses-là.
Roxane, 15 ans, voit juste. Les sciences de la vie attirent plus de jeunes filles que les études en génie. Christophe Guy, directeur général de l'École polytechnique, le constate dans les effectifs de son institution. En moyenne, 22 % des étudiants y sont des femmes. Mais cette moyenne cache de grands écarts. Au niveau du baccalauréat, par exemple, si on trouve 55 % de filles en génie chimique, elles ne sont que 8 % dans les classes de génie informatique.
Ce qui attire en génie chimique, c'est le côté environnement, le côté pharmaceutique, le côté, en fait, où la jeune femme va trouver que dans ce qu'elle va faire, ça va avoir un impact sur le monde, sur la société, et aussi une interaction avec les autres. Alors qu'en génie informatique, sans doute à tort, les jeunes femmes pensent encore que c'est une relation avec un clavier, un ordinateur, et donc ça les rebute un peu plus parce qu'elles ont ce besoin d'avoir de l'interaction avec d'autres gens et d'avoir l'impression qu'elles font quelque chose qui sert. Donc c'est à nous, je pense, à montrer que même en génie informatique, on fait des choses aussi qui servent.
Je suis informaticienne, puis j'adore ça, j'ai jamais manqué de travail, ça a toujours été des jobs payantes, j'ai presque tout le temps travaillé en équipe, là, on pense des fois que les informaticiens, ça, c'est des nerds qui travaillent dans leur petit coin, pas en tout, puis j'ai pas l'air d'une nerd, là, moi, là, puis genre, je veux pas en être une non plus.
Pour la gare côtière, je suis un officier de navigation, mon travail consiste à naviguer le navire sur le fleuve pour se rendre d'une destination à l'autre. Je suis en charge de l'équipement de sécurité à bord.
C'est vraiment extraordinaire de voir à la fin de chaque journée comment les jeunes filles changent leur perception. Et c'est ce qui nous porte à croire que d'année en année, c'est vraiment le stéréotype. C'est à ça qu'on doit s'attaquer. Parce que quand elles font un atelier en aéronautique, elles veulent toutes devenir ingénieures en aéronautique. Quand elles font un atelier en électrique, elles veulent toutes devenir ingénieures électriques. C'est vraiment une influence, je pense, importante qu'on a à leur montrer des modèles, puis à leur montrer le vrai visage, si vous voulez, le quotidien, là, de vraies femmes qui œuvrent dans le domaine scientifique au quotidien.
Bien, ce qui m'intéresse beaucoup, c'était tout ce qui était dans l'énergie nucléaire. Cette affaire-là, je trouvais ça vraiment intéressant. Ce que j'aimais un peu moins, c'était tout ce qui était comme minéralogie, les minéraux, les roches, tout ça. Ça m'intéressait un peu moins.
Bien, peut-être l'informatique, ça pourrait être un domaine qui pourrait m'intéresser.
Bien, j'aurais aimé ça voyager, mais qui est là-bas. La construction, là, je trouvais ça très sale. Ben, j'envisagerais peut-être ça, là, je regarderais.
Montrer, démontrer, prêcher par l'exemple concret. C'est ce qu'a choisi de faire l'association française Femmes et mathématiques. La méthode retenue, une simple brochure. Des membres de cette association sont venus présenter leur travail lors du deuxième congrès Canada-France en mathématiques qui s'est tenu à Montréal. L'association Femmes et mathématiques est un regroupement de mathématiciennes qui encourage les filles depuis 1987 à s'orienter vers des études scientifiques et techniques.
Il y a d'une part les sciences du vivant, la biologie, où les filles sont assez représentées et sont assez attirées. Il y a à l'autre extrême, il y a l'informatique, les sciences de l'ingénieur qui sont beaucoup plus rebutantes pour les filles. Et les mathématiques se situent un petit peu entre ces deux extrêmes.
Laurence Brose, professeure de mathématiques à l'Université de Lille.
Il y en a qui disent que c'est l'abstraction qui leur fait peur. Moi, j'ai tendance à penser que beaucoup de nos collègues sont un petit peu responsables de cela en essayant de ne pas faire vraiment évoluer la manière dont on enseigne les mathématiques, alors que d'autres disciplines se sont peut-être adaptées plus vite. Je pense aussi qu'il y a une question très importante qui est la manière dont on se projette dans le métier plus tard. Alors, s'il est clair que pour certains métiers, qu'on voit bien un petit peu ce qu'on peut en faire, pour les mathématiques, à part professeurs de mathématiques, en général, les jeunes ont peu d'idées des débouchés que peuvent amener ces études. Et donc, pour lutter contre cela, nous sommes associés avec les sociétés savantes de mathématiques françaises et nous avons produit une brochure qui montre de manière simple, avec des cas concrets, des portraits d'étudiants normaux, courants. On montre ce qu'on peut faire avec un diplôme de mathématiques. Et moi, j'ai remarqué par expérience avec les jeunes que cette brochure les aide beaucoup à y voir plus clair. Dans cette brochure, on montre des jeunes femmes et des jeunes garçons aussi, d'ailleurs, qui travaillent dans le secteur de l'environnement, dans le secteur des affaires, dans le secteur de la météorologie, de l'assurance, de la musique. C'est vraiment des sujets extrêmement variés.
Et à l'usage aussi, vous avez remarqué qu'il est plus efficace d'aller stimuler les jeunes avec des mathématiciens et mathématiciennes de niveau atteignable que de grands personnages. Pouvez-vous nous expliquer cette différence?
Ah oui, oui, tout à fait, ça c'est évident. Je pense que de toute façon, bon, toutes les filles connaissent Marie Curie, la grande figure scientifique. Nous, on a fait une brochure aussi où on montre qu'on a une femme académicienne en France, on montre des femmes prestigieuses. Mais malgré tout, quand on fait un choix d'études, on a envie de pouvoir se projeter soi-même. Et tout le monde ne s'imagine pas être à l'Académie des sciences ou avoir un prix Nobel. Et donc, il faut quand même montrer ce qu'on peut faire comme travail quotidien avec un... avec une formation comme celle-là.
Ce qui semble marcher le mieux, en fait, ce sont des doctorantes, hein, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas encore terminé leurs études, mais qui sont très proches des jeunes de par l'âge et de par la proximité, justement, d'approche. Et, ou alors des jeunes adultes qui viennent juste d'entrer dans le métier. Donc, en fait, il y a une question de proximité au niveau de l'âge.
Véronique Lisan, maître de conférences en mathématiques à l'Université Toulouse 2, préside l'association Femmes et mathématiques.
Et puis bon, il faut aussi montrer que ce sont des personnes totalement normales. Donc il y a eu une vidéo qui a été faite là-dessus pour montrer qu'une personne dans la rue peut très bien être un scientifique sans qu'on se rende compte qu'effectivement c'est un scientifique, c'est quelqu'un qui est habillé normalement, qui se comporte normalement et qui est tout à fait normal.
Pourquoi ? Parce qu'on aurait l'impression que ce sont des gens anormaux.
Le professeur Tournesol, l'image parfaite du scientifique, mais ni moi ni Véronique ne sommes comme ça.
C'est complètement misogyne, mais à un point comme c'est pas permis. Hein.
Et vous dites aussi ce qui fonctionne, c'est de présenter des parcours qui ne sont pas linéaires.
Oui, donc dans la brochure, le zoom sur les métiers des maths, ou alors dans la brochure qui présente donc l'exposition conçue par l'association Femmes et Mathématiques, on s'est appliqué à montrer des parcours non linéaires, c'est-à-dire des personnes qui à un moment donné ont hésité ou ont vraiment changé d'orientation et qui soit sont venues aux mathématiques à partir d'études complètement différentes en sciences sociales ou autres et qui après ont eu besoin de mathématiques pour aller plus loin, ou alors au contraire, des personnes qui à partir d'études de maths et qui trouvaient que bon, bah, finalement ça leur plaisait pas complètement, ont bifurqué vers de la biologie ou vers des affaires pour finalement se servir des mathématiques comme d'un socle et avoir une double compétence, mathématiques et autres.
Alors, une carrière linéaire, on l'imagine aussi, ça peut être brisé par d'autres choses que des bifurcations comme ça, par exemple la famille, et c'est beaucoup ce qui arrive aux femmes en sciences, le choix de famille, les enfants arrivent et ça fait bifurquer les carrières.
Oui, alors le monde académique des mathématiciens est assez misogyne et il n'est pas évident pour une femme mathématicienne d'avoir une interruption de carrière pour élever ses enfants et de revenir après complètement dans le système.
Je pense que chaque enfant ou la naissance de chaque enfant devrait compter pour un théorème ou pour un article en maths. Hein.
Les mathématiques toc, les mathématriques troc, les mathématrucs choc, les mathématu vu, c'est fini, je ne compte plus.
Évidemment, on ne vit pas dans un monde où chaque bébé compte pour un théorème. Mais pour les membres de la Mission pour la place des femmes du Centre national de recherche scientifique français, on vit dans un monde où il est possible d'améliorer le cheminement professionnel des femmes en sciences. Agnès Netter dirige la Mission pour la place des femmes.
Le premier frein qu'on rencontre, c'est que les jeunes filles ne s'engagent pas suffisamment dans des carrières scientifiques longues. Et donc, à partir de ce moment-là, il est très difficile de pouvoir les recruter, puisque le CNRS, au niveau des chercheurs, recrute après une année de post-doctorat. Donc là, dans certaines disciplines, il n'y a pratiquement pas de femmes. Mais, quelle que soit la discipline, dans la carrière, pour une multitude de raisons, eh bien, on les voit progresser moins vite dans leur carrière. C'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Donc, vous avez à la fois l'effet tuyau de verre et l'effet plafond de verre qui s'imposent. Donc, devant ce constat, le CNRS a souhaité mettre en place une politique pour essayer de lutter contre ces freins qui sont des freins sociaux aussi.
C'est la Mission pour la place des femmes du CNRS qui a eu l'idée de faire voyager une exposition constituée de portraits de femmes qui font carrière en physique. L'idée a été adaptée au Québec et l'exposition Physique de femmes parcourt la province pour sensibiliser le public à la variété des débouchés en sciences physiques. Cette femme, cette physicienne, cette trajectoire, les voies de la physique sont nombreuses. Les physiciennes dépeintes ne sont pas toutes des universitaires, elles ne travaillent pas toutes dans les laboratoires. Dans la salle de classe, auprès d'un laser, dans le monde des armes à feu, au sein d'un magazine ou dans le secret du grand accélérateur de particules, elles incarnent les différents visages d'une passion commune pour la science.
Moi, c'est Delphine Bouilly. Je suis étudiante à la maîtrise en physique à l'Université de Montréal. J'étudie la nanoélectronique.
Est-ce qu'il y a beaucoup de filles autour de vous?
De moins en moins, en fait. C'est ça qui est particulier. Plus on avance dans les études, moins il y en a. Au baccalauréat, on était quand même 10-15. Je suis en général la seule fille dans mes cours.
Moi, c'est Émilie Auger. Je suis technicienne de recherche à l'Institut national de la recherche scientifique à Varennes. C'est aussi le fun parce que je travaille conjointement avec justement des gens qui ont fait des études supérieures. Que moi, personnellement, je me serais pas sentie à l'aise à faire ces études-là. Puis là, ben, je travaille avec eux, puis c'est vraiment une grande famille, puis ils ne nous jugent pas parce qu'on est juste des petits techniciens. C'est vraiment, on dirait que tout le monde est égal, puis on a du plaisir ensemble dans les labos.
Et au jour le jour, qu'est-ce que vous faites?
J'entretiens un laser de haute intensité. Donc, je vais le démarrer le matin, je vais faire les maintenances, le nettoyage, commander du matériel. Puis aussi, je vais aider tous les chercheurs qui viennent travailler s'ils ont besoin de quelque chose.
Alors, moi, je suis Isabelle Vaillancourt. Je suis la rédactrice en chef du magazine Les Débrouillards. Moi, j'ai étudié en physique à l'Université de Montréal parce que j'aimais beaucoup l'astronomie. Mais finalement, ce qui m'intéressait le plus dans les sciences, c'était apprendre, c'était la variété des domaines scientifiques. Aujourd'hui, en tant que rédactrice en chef, j'essaye de montrer tout ça dans mon magazine, comment c'est extraordinaire, comment il se passe des choses fantastiques, comment la technologie influence nos vies, comment ça va changer le futur.
Bonjour, moi je m'appelle Claude Barbeau, je suis physicienne. Donc, je travaille pour une compagnie privée qui s'appelle Forensic Technology. Je fais partie de l'équipe de recherche. Alors, notre mandat à nous, c'est d'essayer de rendre la société plus sûre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les balles et les douilles qui ont été tirées par une arme et pour pouvoir dire est-ce que ce projectile-là a été tiré par la même arme. Donc, aider les corps policiers, finalement.
Brigitte Vachon, alors je suis professeure à l'Université McGill, titulaire d'une chaire de recherche du Canada. Dans le domaine dont je me suis éventuellement spécialisée, qui est la physique des particules, essayer d'étudier les plus petites composantes de l'univers, alors ce qu'on appelle les particules. De plus en plus, je fais mes recherches au CERN, au laboratoire du CERN à Genève. On s'attend, on espère de faire des découvertes d'ici les 5, 6, 7 prochaines années. C'est un temps magique pour travailler en physique des particules présentement. On a vraiment l'impression de faire partie de l'histoire, quoi.
La lutte pour faire éclater le plafond de verre qui limite la progression des femmes dans les carrières scientifiques se mène dans les institutions scientifiques, les établissements d'enseignement et dans les entreprises. La lutte pour agrandir le tuyau de verre qui témoigne du peu d'intérêt des jeunes filles pour les études en sciences se mène sur le terrain, auprès des jeunes. C'est précisément ce que visent les trois initiatives proposées, une foire des emplois pour le génie, une brochure pour les mathématiques et une exposition itinérante pour la physique.
Il faut aussi sensibiliser les parents, parce que les parents ont énormément d'influence sur les choix de carrière que leur fille fait, bien qu'ils pensent que c'est le contraire. Souvent, les parents, quand ils ont des adolescentes de 14-15 ans, ils disent « Ah, mon adolescente, elle m'écoute pas. » Puis c'est pas vrai. Les parents sont l'élément le plus influençant dans le choix de carrière d'une adolescente. Ça, c'est très, très, très important que les parents le réalisent.
L'exposition physique de femmes dont il était question dans ce reportage poursuit sa tournée. Les portraits des 7 physiciennes québécoises ainsi que 8 de leurs collègues en France seront présentés en Outaouais à l'automne. L'auteur de la semaine maintenant, il est médecin spécialisé en médecine nucléaire, mais c'est aussi un passionné des oiseaux. Depuis des années, Jean Léveillé parcourt le monde entier à la recherche des plus beaux spécimens à observer et à photographier. Il avait déjà publié aux éditions de l'Homme « Les oiseaux et l'amour »,« Les oiseaux gourmands » et « Drôles d'oiseaux ». Il signe maintenant « Les oiseaux explorateurs », un livre illustré de belles photos glanées au gré de ses nombreux voyages. Gaëlle Lucia Berdeau est allée rencontrer Jean Léveillé chez lui à Montréal pour discuter de son livre et pourquoi pas, en passant, observer quelques oiseaux.
Jean Léveillé, on est dans votre jardin montréalais. Est-ce que c'est ici que tout a commencé, votre passion pour les oiseaux?
En fait, ça a commencé à Sherbrooke. C'est qu'en fait, on a eu 3 enfants dans 2 ans. Alors, vous vous imaginez, moi, j'étais au CHUS à Sherbrooke et j'étais de garde. Et quand je rentrais à la maison, bien, c'était pas très drôle parce qu'il y avait 3 enfants qui pleuraient. Et je trouvais que ma femme, c'était bien difficile à ce moment-là. Donc, je lui ai suggéré, fais donc quelque chose le samedi matin. Donc, elle s'est passionnée pour les oiseaux, puis quand les enfants ont été un peu plus vieux, elle m'a dit, bien, viens donc faire un tour, c'est intéressant. Moi, je suis allé, puis ça m'intéressait moins qu'elle. Moi, l'observation de l'oiseau pour l'identification, là, ce qu'on appelle le birding ou le checklist, ça m'intéressait moins. Et là, elle m'a suggéré de faire la photo d'oiseau. Et pour faire la photo d'oiseau, il faut connaître le comportement. On ne dit pas un oiseau va donc t'installer à tel endroit, il y a un beau spot de soleil, je vais faire une belle photo. Non, il faut connaître son comportement. Et ça, ça m'a intéressé beaucoup.
Et ici, dans ce jardin montréalais, vous avez aménagé ça pour pouvoir les observer de près, tous ces oiseaux?
Par exemple, vous avez des monardes ici. Alors, on va voir des colibris qui vont venir un petit peu plus tard. Au printemps, il y a d'autres arbres en fleurs qui attirent les colibris. Donc, tout a été pensé pour attirer différentes espèces d'oiseaux adaptées aux besoins de l'oiseau. Si un oiseau est collectif, ça va être un endroit collectif. S'il est individuel, ça va être un endroit où il va s'alimenter tout seul. Et donc, on a beaucoup pensé en fonction du comportement de l'oiseau.
Et ça fonctionne? Vous en attirez beaucoup?
Oui, ici, bien, à plein centre-ville, on est chanceux parce que on a la montagne. Ça, c'est un privilège extraordinaire. Et on est à côté, donc on a vu à peu près 130 espèces d'oiseaux ici.
130 espèces?
Oui. Il faut compter les moments d'émigration, hein, mais les oiseaux finissent par nous connaître et ils arrêtent au printemps. Je vais vous dire, ça a beaucoup plus de mémoire qu'on l'imagine. L'oiseau a une mémoire extraordinaire. On a fait beaucoup de tests ici, je pourrais vous en parler, où on a vérifié que l'oiseau, c'est le même qui revient. Il cherche les mêmes endroits. On a mis des postes d'alimentation, on les a déplacés. Quand ils revenaient le printemps suivant, ils allaient au premier endroit avant de découvrir qu'on avait déplacé ça. Donc, effectivement, ça a été aménagé pour étudier aussi le comportement de l'oiseau et du reste de la vie.
Et là, aujourd'hui, votre amélanchier a l'air particulièrement populaire.
Ça, c'est un arbre extraordinaire. Les petits fruits sont extraordinaires, mais on a vécu beaucoup d'expériences. Par exemple, on a un merle qui s'est aperçu qu'on avait un amélanchier. Il n'y avait pas une feuille, pas une fleur, rien. Puis il arrivait au printemps, puis s'installait, puis il chassait tous les autres. C'était le sien. Et année après année, il revenait le premier, puis là, il s'installait, puis il laissait même pas les fruits mûrir. Les fruits étaient à peine rouges parce que la mélanchier a un fruit qui devrait être plutôt mauve. Hein? Et là, quand le fruit était à peine rouge, il venait et il se servait. Et ça s'est dit, tiens, regardez, vous avez une mésange là, qui va arriver dans la mangeoire. Elle sait que c'est pour elle, ça, cette mangeoire-là. Donc, toutes les mangeoires sont adaptées aux différentes espèces.
Et cette passion, Jean Léveillé, vous a amené à écrire des livres, dont un plus récent qui s'appelle « Les oiseaux explorateurs », mais c'est la suite peut-être d'autres livres. Alors, qu'est-ce que vous voulez apporter encore?
Bon, moi, c'est parce que, bon, vous parlez des oiseaux qu'on a observés ici, mais ils s'en vont, ils vont ailleurs, et moi, j'ai voulu les suivre. Maintenant, je ne les ai pas suivis gratuitement comme ça. C'est parce que dans mon travail, j'avais allé dans différentes conférences, je faisais des travaux de recherche et il fallait présenter un petit peu partout, donc j'allais dans différents pays, mais j'en profitais toujours pour aller voir comment était organisée la nature dans ces pays-là. Et je retrouvais des oiseaux qu'on voyait ici. Et je me suis rendu compte à quel point l'organisation était aussi importante là-bas qu'ici. Et là, j'ai commencé à rencontrer des guides extraordinaires qui m'ont beaucoup transformé parce que, pour moi, les guides ornithologiques, jusqu'à maintenant, c'est surtout des gens qui identifient les oiseaux, alors que moi, j'étais intéressé au comportement. Et j'ai rencontré des guides qui s'intéressaient au comportement. Alors, au lieu de voir 150 cette espèce dans un séjour. Je pouvais en voir une ou deux, mais bien connaître le comportement. Et à ce moment-là, j'ai rencontré aussi des peuplades qui m'ont appris beaucoup de choses sur le reste de la vie. Comment vivent les chenilles, comment vivent les fourmis, comment la vie se passe sur Terre. Et ça m'a beaucoup passionné. J'ai beaucoup photographié ça. Et en revenant, je me suis dit, bien, j'aimerais ça partager ça avec les gens d'ici. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire des livres. Et ce sont des livres sur le comportement. Ce ne sont pas des guides pour aller sur le terrain pour identifier des oiseaux. C'est vraiment pour le comportement. Et pourquoi le comportement? Parce que moi, ce que je veux, c'est intéresser une population beaucoup plus large que la population qui s'intéresse aux oiseaux. Donc, une population qui, progressivement, va devoir commencer à se poser des questions. Qu'est-ce que c'est cette vie-là sur Terre? Et comment est-ce que ça peut être équilibré ou déséquilibré? Et commencer à vouloir rétablir un peu d'équilibre.
Ce sont en fait des histoires d'oiseaux. Vous l'avez dit, ce n'est pas un guide d'identification. Donc, vous racontez un peu, vous prenez certaines espèces et vous racontez quelques histoires sur comment ces espèces-là fonctionnent. Et ce sont des oiseaux explorateurs. Donc, il y a toutes sortes de façons d'être un oiseau explorateur. Il y en a, par exemple, qui explore des lieux assez surprenants qu'on pourrait croire hostiles. Je pense aux conures qui visitent les termitières, carrément.
Oui, alors ça, c'est intéressant. Vous voyez, moi, je suis dans une tribu. Et les gens disent, veux-tu voir quelque chose d'intéressant? On a des termites, et sais-tu quelle est la caractéristique d'une termitière? C'est que c'est climatisé. La température est constante. Donc, il y a une conure, un oiseau. La conure, c'est un petit perroquet qui s'est aperçu que c'était pas mal amusant parce que c'était moins d'ouvrage. On était obligé de moins travailler. C'est une température constante. Mais il y a plus que ça. La conure arrive, fait un tunnel, bâtit une chambre, appelons ça familiale, à l'intérieur de la termitière, s'en va, puis attend. Pourquoi elle attend? Parce que les termites disent, tiens, on a un visiteur. Et elle s'en va, puis elle tapisse le dedans de ce que vient de creuser la conure, et elle s'en va. Donc, elle s'isole. Chacun son appartement. Tu me fiches la paix, etc. On s'isole. Tu peux faire du bruit si tu veux, mais chacun chez soi. Et c'est très intéressant parce que la conure n'est pas là pour manger des termites, mais cohabiter. Donc, ça devient des espèces de colocs. Et ça, comment une conure s'est aperçue qu'une termitière était climatisée, que si on creusait, les termites revenaient, finissaient, ils font la peinture, la tapisserie, ils font tout ça. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire.
Alors, il y a aussi, par exemple, le picadeau noir qui, lui, a le don de trouver la nourriture aux endroits où on ne l'attendrait peut-être pas.
Oui, alors ça, c'est au Québec, ici, mais il y en a beaucoup un petit peu partout. J'ai vu des oiseaux semblables en Afrique. Quand il y a un feu de forêt, le picadeau noir est super enchanté parce qu'il sait qu'il va y avoir des nouveaux insectes qui vont pondre des larves. Et à ce moment-là, c'est excellent au point de vue protéines. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études à faire sur l'équilibre des régimes chez les oiseaux, hein, comment ils font l'équilibre. Au moment où ils ont des petits, ils vont manger plutôt des insectes parce qu'il y a plus de protéines. À d'autres moments, ils vont leur enseigner à manger des graines, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Et effectivement, le picadeau noir, ici au Québec, quand on a un feu de forêt, s'amène, s'installe. Et là, il sait qu'il va y avoir de la nourriture en abondance parce que ça aussi, c'est un autre aspect. La régénération de la forêt, c'est quelque chose de très intéressant. Et le picadeau noir est un des participants de la régénération d'une forêt.
Et puis les oiseaux explorateurs, ce sont, en fait, ce serait peut-être la première idée qu'on a, ce sont des oiseaux migrateurs, souvent. Vous êtes allé jusqu'au Sénégal voir des pélicans qui, eux, doivent traverser le désert entier sans mettre la patte au sol parce que c'est trop chaud. C'est vraiment un exploit.
Oui, et ça aussi, c'est des endroits à préserver. Il y a donc le Djoud, qui est un immense réservoir où les oiseaux s'arrêtent, refont leur force. Et ça aussi, c'est des endroits à préserver.
Moi, c'est un grand parc.
C'est un immense parc. À la frontière de la Mauritanie et du Sénégal. C'est immense. Et ça, pour moi, c'est des patrimoines absolument extraordinaires de l'humanité qu'il faut absolument protéger. Et c'est un peu dans ce sens-là que j'ai écrit ces livres-là pour dire, oui, on est important au Québec, oui, on est important au Canada, oui, on est important en Amérique, mais on est très, très tributaire de ce qui se passe, par exemple, au Brésil ou en Amérique centrale. Donc, c'est un peu ça. Et je vais vous dire, la semaine prochaine, je vais être en Abitibi. Et en Abitibi, ce sont les mines. Et je rencontre les mineurs et ils me disent, écoute, mon grand-père, il descendait toujours dans la mine avec un canari. Il écoutait son chant et selon le chant, bien, il savait que la qualité de l'air était plus ou moins bonne. Pour moi, l'oiseau est un baromètre actuellement de la santé de la planète. Il y a une biodiversité, il y a une chaîne alimentaire et les erreurs qu'on fait et que les oiseaux nous signalent, parce qu'ils nous en signalent beaucoup, finissent par nous atteindre. Et là, on s'énerve parce que qu'est-ce qui se passe? On a des virus qui nous atteignent, on a des bactéries. Ce maudit oiseau, il nous a transporté une bactérie, etc. C'est pas ça du tout. C'est parce qu'on a créé un déséquilibre. Et ça, on va payer cher pour ces déséquilibres-là. Et c'est un peu dans ce sens-là que je veux dire, l'oiseau est un baromètre pour nous indiquer comment ça se passe.
Et est-ce qu'il y a une suite à ces oiseaux explorateurs?
Écoutez, ça va dépendre de la réponse du public. Effectivement, j'ai beaucoup d'idées, mais une des choses qui me déçoit beaucoup, c'est qu'on n'est pas très intéressé à ce qui nous entoure. C'est plutôt l'être humain qui est important. L'être humain occupe tout. Il arrive d'un endroit. Je vais vous donner un exemple. J'arrive de Colombie-Britannique, où je suis allé voir les aigles à tête blanche. Hein?
Les pigalles,
l'emblème américain. Bien, il n'y a plus de place. Tout le monde veut avoir son chalet le long des rivières. Tout le monde veut promener son chien sur la plage. Donc, les becs à seaux qui font leur nid là sont dérangés. Alors, je suis allé en Colombie-Britannique. Les pigardes, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont plus de place le long des rivières. Bien, ils s'en vont dans les dépotoirs. J'ai vu bien plus de pigardes dans les dépotoirs. Alors, on fait des dépotoirs. Moi, je suis surpris qu'à partir de tous nos dépotoirs où il y a des bactéries, des virus, de tout, qu'on n'ait pas des milliers d'oiseaux morts. Donc, c'est un peu une grande réflexion sur tout ça.
Donc, si on veut en savoir un peu plus sur les pigargues et sur d'autres espèces, on peut lire « Les oiseaux explorateurs » aux éditions de l'Homme ou les livres précédents aussi que vous aviez publiés. Merci, Jean Léveillé.
C'est moi qui vous remercie.
L'auteur qu'on vient d'entendre, Jean Léveillé, est décidément prolifique puisqu'il signe une autre nouveauté, celle-là pour intéresser les enfants de 7 ans et plus à l'observation du comportement des oiseaux. Le livre s'intitule « Découvre les secrets des oiseaux » et c'est publié cette fois aux éditions Multimonde. Et voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission pour cette semaine. À la réalisation, Robert Lamarche, à la technique, Guy Brouillette, journaliste Hugues de Roussan, Gaëlle Lucia Berdou et Yannick Villedieu, journaliste au site Internet Louis-André Bertrand. Pour nous joindre, nous transmettre vos idées, vos commentaires et surtout vos questions de nature scientifique, vous le faites par téléphone en composant le 514-597-6166 de la région de Montréal, de l'extérieur 1-800-752-9050 par courriel lumière@radio-canada.ca. Ici Sophie-André Blondin, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition des Années-Lumière. Au revoir, bonne semaine.